Kiosque Magazine.
Jeudi 6 novembre, et oui, vous m'avez bien entendu, un jeudi 2 novembre, gris, froid, éteint et morne comme il se doit. N'empêche, on va vous parler d'économie d'emploi au courant de la prochaine heure, comme Kiosque le fait à chaque jeudi. Au micro, Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, à la mise en onde de Kamal Salifou. Éric, qu'avez-vous prévu pour aujourd'hui?
Alors, vous connaissez bien sûr, François, le groupement international sur l'environnement et le climat, mais vient de publier un énième rapport, toujours plus alarmant, toujours plus insistant, sans qu'une réponse puissante et nécessaire en termes de réforme industrielle ou de modification profonde des normes de production et de consommation ne soit vraiment envisagée par les politiques, tous pays confondus. Hein. La dernière farce, vous en souvenez peut-être, c'était le défilé commun des défenseurs de l'environnement et des responsables politiques dans les rues de New York. C'était aussi grotesque si les Allemands et les Alliés avaient défilé ensemble en 40 en criant des slogans pour la paix. Et bien de tout cela, l'Office canadien pour l'environnement, l'Office national pour l'environnement, se moque. On en parlera. On passera ensuite au fractionnement du revenu, hein, c'était une promesse électorale du Premier ministre Harper. Eh bien, dans les faits, devrais-je plutôt dire dans le discours, elle se réalise. Mais pour en être totalement sûr, il convient de lire en détail ces mots. Et là, on peut découvrir que la promesse n'est peut-être pas tenue aussi solidement qu'on pouvait l'espérer. C'est à la fois un exercice économique et politique. Et comme d'habitude, rien ne résiste à la vérification. Pour finir, en ce qui me concerne, l'avenir du Nouveau Monde, s'il se réalise, va tenir sur deux piliers, l'assurance et le divertissement. La santé connectée est une sous-rubrique de ces deux piliers. Elle a donc une importance considérable, d'où la prolifération des objets connectés qui nous renseignent sur notre santé le jour comme la nuit et sont capables de transmettre ces données à des opérateurs prêts à les transformer en profit. Nouveau monde, voyons de quoi tu as l'air.
Je ne vous cacherai pas que j'ai très hâte d'apprendre comment on peut se divertir en soignant électroniquement sa santé, mais bon, c'est déjà un autre débat. De mon côté, je vous parle évidemment de la hausse du tarif des frais de garde. On verra que le gouvernement de Philippe Couillard là-dessus est prêt à revenir sur toutes les promesses qu'il avait faites en campagne électorale. On parle aussi, et ça c'est une déclaration étrange, de bénévolat, puisque le gouverneur de la Banque du Canada a encouragé les jeunes à travailler bénévolement s'ils ne se trouvent pas d'emploi, question d'acquérir de l'expérience. Est-ce qu'on aurait, nous aussi, une génération sacrifiée? C'est la question que se pose Gérard Bérubé. Et finalement, la classe moyenne. Qu'est-ce que c'est et comment se porte-t-elle au Québec? Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Seulement novembre, mais les cadeaux sont tombés. Les cadeaux électoraux s'entendent puisque le gouvernement Harper a commencé à redistribuer les surplus qu'il ne fait pas encore. Ça prend la forme de différentes mesures, dont une qui est très, très contestée et qui est peut-être pas vraiment indiquée pour la population québécoise, le fractionnement du revenu. Éric de Belval, qu'est-ce que c'est? Que doit-on en penser?
Alors, je vous le disais, rien ne résiste à la vérification. Hein. Et les vérifications de Stéphanie Gramont sont généralement précises, argumentées et éclairantes. Alors, la question du fractionnement, et on va la développer, n'échappe pas à la règle qu'elle s'est faite, et pour laquelle d'ailleurs elle mérite d'être saluée et remerciée. Donc son article est paru dans la presse et s'appelle « Fractionnement du revenu, un beau déguisement », on aura compris un peu l'axe de réflexion. Le gouvernement Harper a choisi de déguiser et d'enrober une de ses promesses électorales controversées, le fractionnement du revenu pour les familles, pour la rendre plus séduisante pour l'ensemble des ménages canadiens. Depuis 2011, les conservateurs promettaient le fractionnement du revenu pour les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans, dès que le déficit serait éliminé, ce qui devrait se produire en 2014-2015. Or, le fractionnement du revenu avait été vertement critiqué tant par la gauche que par la droite. CD Howe, le Mowat Center, l'Institut Broadbent, le Centre canadien de politique alternative. Tous ont décrié cette mesure qui profiterait essentiellement aux familles, entre guillemets, traditionnelles les plus riches et qui forcerait les provinces à emboîter le pas alors qu'elles n'en ont pas les moyens. Même l'ancien ministre des Finances, Jim Flaherty, avait manifesté son désaccord avant de quitter son poste l'an dernier. Ça avait fait pas mal de bruit, ça, d'ailleurs. Mm-hmm. Le gouvernement a pris bonne note de ces critiques. Il revient à la charge avec une version revue et corrigée du fractionnement, ainsi qu'une série d'autres mesures qui profiteront aux familles moins nanties, a-t-on pris soin de souligner lors de l'annonce d'hier. On aurait souhaité que ce train de mesures soit dévoilé au Parlement dans un budget en bonne et due forme. Mais Stephen Harper a préféré faire son annonce dans un centre communautaire juif de l'Ontario, tout en faisant du bricolage avec les enfants, comme si de rien n'était. Mais ne vous y trompez pas, les baisses d'impôts annoncées hier sont gigantesque, 4,6 milliards, alors qu'on s'attendait à un allègement de 3 milliards tout au plus. Le fractionnement du revenu demeure la mesure clé, procurant des économies d'environ 2 milliards par année à 1,7 million de familles. Chez les couples qui ont des enfants mineurs, le conjoint qui a le revenu le plus élevé pourra attribuer jusqu'à 50 000 dollars à celui qui a un revenu inférieur, de manière à réduire le taux d'imposition global. Mais l'économie sera... C'est ça, le principe du fractionnement, c'est que vous pouvez prendre dans un couple une partie du revenu de l'autre de façon à faire un rééquilibrage qui va vous permettre d'accéder à une tranche d'impôt plus favorable.
Oui, de jouer sur les paliers d'imposition pour que les deux membres du couple, finalement, aient le même palier d'imposition plutôt qu'un qui est très imposé et l'autre qui ne l'est pas beaucoup.
Exactement. Mais l'économie sera... Alors là, on commence déjà à appuyer sur la pédale de frein. L'économie sera plafonnée à 2000 $, ce qui empêchera les familles les plus riches de profiter d'économies encore plus juteuses. N'empêche, le fractionnement du revenu laissera bien des contribuables sur leur faim. Les célibataires, les couples sans enfants, les familles monoparentales, les familles qui ont des enfants majeurs. Même pour les familles avec des enfants mineurs, les économies d'impôts ne seront pas nécessairement au rendez-vous. En effet, le fractionnement du revenu aura peu d'impact pour les couples qui ont des revenus assez égaux, ce qui est le plus souvent le cas au Québec que dans les prairies. On s'en doute. Et le fractionnement ne donnera pas grand-chose aux contribuables qui gagnent moins de 44 000 $, car ils sont déjà dans la fourchette d'imposition la plus basse. Au Québec, les deux tiers des contribuables se trouvent dans cette catégorie. Pour toute cette raison, le Québec profitera beaucoup moins du fractionnement que l'Alberta, où les femmes restent davantage à la maison pour s'occuper des enfants et où l'écart de revenus entre les conjoints est plus prononcé. Mais heureusement, le fractionnement du revenu prendra la forme d'un crédit. Ce petit détail fait en sorte que les provinces ne seront pas forcées de suivre, comme elles l'ont fait en 2007, lorsqu'Ottawa a accordé aux retraités le fractionnement des revenus de pension.
Il faut le dire ici, au Québec, la question ne se posait pas puisqu'on a une déclaration de revenus séparée, mais dans sept provinces canadiennes, il y a un seul rapport d'impôt, c'est le rapport d'impôt qu'on remet à Ottawa et qui sert à financer aussi les provinces. Donc, si on n'avait pas procédé par crédit d'impôt, toutes ces provinces-là auraient été obligées de donner le même crédit qu'Ottawa, ce qui aurait été, dans leurs finances à elles, qui ne sont pas équilibrées, une vraie catastrophe.
Absolument. Et comme la question, d'ailleurs, de l'arrêt du paiement des impôts provinciaux au Québec se pose et prendra peut-être un jour le même tour que dans les autres provinces, eh bien, votre remarque est d'autant plus d'actualité. Mais ce n'est pas tout. Les familles recevront aussi un beau chèque de 360 $ dans leur boîte aux lettres le 1er juillet prochain, mais ce cadeau n'en est pas vraiment un pour tout le monde. Voici l'entourloupette. Le gouvernement Harper a l'intention de bonifier la prestation universelle pour la garde d'enfants qu'il a créée en 2006. Tous les parents d'enfants de moins de 6 ans reçoivent 100 $ par mois, soit 1 200 par année. Eh bien, la PUJ, donc c'est ce que je viens de citer, la prestation universelle, pas universitaire, pour la garde d'enfants, sera majorée de 160 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans. Et les parents recevront désormais 60 $ par mois pour les enfants de 6 à 17 ans, même si les enfants de 17 ans se passent généralement de gardienne. En apparence, cela fait 720 $ de plus par année par enfant, sauf que la PUJ est imposable, ce qui peut réduire sa valeur réelle à 360 $ pour une famille où les deux conjoints ont des revenus élevés. Ça, c'est un grand principe en fiscalité. Ce que je te donne d'une main, je le reprends de l'autre. De plus, la PUJ va remplacer l'actuel crédit d'impôt pour enfants qui avait une valeur de 338 $. L'un dans l'autre, les parents plus fortunés n'auront que 22 $ de plus dans leur poche. Par contre, les familles plus pauvres seront gagnantes car l'ancien crédit n'était pas remboursable, ce qui signifie que les parents qui ne payaient pas d'impôt n'y avaient pas droit. Pour corriger le tir, Ottawa aurait pu rendre ce crédit remboursable, mais la PUJ est plus payante politiquement car les familles voient le montant passer tous les mois dans leur compte de banque. La cerise sur le gâteau, c'est que la bonification de la PUJ entrera en vigueur le 1er janvier 2015, mais ne sera versée qu'à partir du 1er juillet. C'est ainsi que 4 millions de familles recevront un chèque de 360 $ couvrant les 6 premiers mois de l'année juste à temps pour la fête du Canada. Le fractionnement du revenu permettra à un couple qui a des enfants de moins de 18 ans demeurant sous son toit d'alléger sa facture d'impôt jusqu'à 2 000 $. Prenons l'exemple de Julie et André qui ont deux jeunes enfants. Julie gagne 20 000 $ tandis qu'André a un salaire de 60 000. André a donc un taux d'imposition marginale qui se situe à 22 %. C'est le taux qui s'applique sur la fourchette des revenus allant de 44 à 83 000. De son côté, le taux marginal de Julie n'est que de 15 %, soit le taux qui s'applique sur les revenus allant jusqu'à 40 000 $. Et bien avec le fractionnement du revenu, je termine là-dessus, André pourra transférer à Julie des revenus de 20 000 $ strictement sur le plan fiscal. De cette manière, ils auront tous les deux des revenus de 40 000 $ et seront imposés seulement à 15 %. Cela réduira donc la facture fiscale du couple de 939 $ par année, a calculé Stéphane Leblanc, fiscaliste associé chez EY.
Juste un mot peut-être avant de conclure sur la manière dont les choses se sont faites, parce que c'est profondément anormal de voir qu'un premier ministre dans une garderie, finalement, fait une mesure économique. C'est le boulot du ministre des Finances, ça doit normalement se faire dans un discours sur le budget ou au pire ou dans une mise à jour économique et dans tous les cas de figure, devant la Chambre des communes, pas devant les journalistes et les enfants qui font du bricolage. Ça en dit non, en fait, sur le respect des institutions démocratiques par le gouvernement actuel. Bon, actuellement au Canada, les cadeaux, c'est à Ottawa. Les compressions, bien, c'est dans les provinces, selon la bonne vieille logique qui veut que l'argent est à Ottawa et les dépenses dans les provinces. Cette fois-ci, le gouvernement libéral se prépare à augmenter, mais vraiment beaucoup, les frais de garderie. Marco Belair-Cirino, dans Le Devoir d'aujourd'hui, s'est penché sur la question. Un texte intitulé « Un grand bond en arrière ». L'abandon du tarif unique aura un impact énorme sur la fréquentation des centres de la petite enfance, des garderies subventionnées et des services de garde en milieu familial, avertit le directeur général de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, Louis Sénécal. J'ai vu des parents avec les larmes aux yeux. Ils nous disent clairement qu'ils remettent en question l'idée d'avoir un deuxième ou un troisième enfant lancé à l'autre bout du fil. Ils n'arrivent pas à croire que le gouvernement libéral puisse imposer des frais de garde fluctuant entre 8 et 20 $ par jour dès le 1er avril 2015. Pourtant, le ministère de la Famille entend bel et bien exiger une contribution de base de 8 $ par jour à laquelle les familles à moyen et à haut revenu devront ajouter une contribution additionnelle de 1 à 12 $ selon une fiche de renseignement remise à l'ensemble des ministres. La ministre Francine Charbonneau a qualifié mercredi de « spéculation journalistique » le projet de grille tarifaire apparaissant le jour même dans Le Devoir, même si celle-ci est une copie conforme de celle apparaissant dans le document de 2 pages préparé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. La fin du tarif unique dans les services de garde, conjuguée à d'autres mesures comme le fractionnement du revenu entre conjoints, forcera plus d'une femme à mettre en sourdine sa carrière professionnelle pour rester à la maison, ce qui va lui permettre de bénéficier de la dernière mesure du gouvernement Harper, le fractionnement du revenu, appréhende le directeur général de l'association Louis Sénécal. On s'enligne vers une société où les femmes restaient à la maison, comme il y a 30 ans. Si c'est un choix, je n'ai pas de problème, mais pas une obligation, affirme-t-il en entrevue téléphonique avec Le Devoir. En allant de l'avant avec la modulation des tarifs, le gouvernement libéral forcerait des femmes à choisir entre avoir un enfant ou avoir une carrière. Il s'agirait d'un grand bond en arrière. Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé sans détour la fin imminente de l'universalité des services de garde éducatifs à l'enfance. On veut que le régime soit préservé, on veut qu'il soit équitable et qu'il reflète la structure des revenus du Québec, a-t-il affirmé lors de la période de questions et réponses orales. M. Couillard a présenté la modulation des tarifs comme une option nettement plus équitable comparativement à la hausse des tarifs de garde généralisée, comme celle dans les cartons de l'ancien gouvernement, soi-disant progressiste. Nous allons protéger les familles à bas revenus et les familles de la classe moyenne à revenus modestes contre toute augmentation qui serait au-delà de leur capacité de payer, a-t-il souligné, dépeignant le tarif unique des services de garde comme l'institutionnalisation d'un transfert des moins fortunés vers les plus fortunés. Les familles de la classe moyenne trouveront leur compte dans la nouvelle grille tarifaire, a-t-il promis, se refusant à plus de précisions. Le gouvernement du Québec pourrait élargir la portée du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants aux parents d'enfants inscrits à une garderie subventionnée, afin de rendre la modulation des tarifs plus digeste, selon des sources consultées par Le Devoir. À l'heure actuelle, seuls les frais payés dans des établissements privés sont déductibles d'impôts. En réussissant à atteindre l'équilibre budgétaire au terme de l'exercice financier de 2015-2016, le gouvernement libéral émergera-t-il comme le sauveur ou le fossoyeur du modèle québécois au cœur duquel se trouve la politique familiale, s'interroge Louis Sénécal? Il voit aussi dans l'établissement de barrières à l'entrée des CPE, des garderies privées subventionnées et des services de garde en milieu familial, une façon détournée pour l'équipe de Philippe Couillard de ne pas devoir compléter le réseau de 250 000 places à contribution réduite au Québec. Au lendemain d'une hausse tarifaire, il y a des parents qui vont retirer leur enfant du service de garde et il y a des parents qui ne voudront pas envoyer leur enfant dans un service de garde. Est-ce qu'il y aura lieu à ce moment-là de compléter le réseau? Demande-t-il à quelques jours de manifestation dans 11 municipalités québécoises. Par le biais de leurs impôts et de leurs taxes, les Québécois financent un panier de services, santé, éducation, services de garde. Pourquoi on enlèverait ça du panier collectif et on ferait porter aux familles le fardeau de résorber le déficit? C'est le déficit de tout le monde, dit M. Sénécal, qualifiant l'attitude du gouvernement de scandaleuse. Après avoir mis fin à l'universalité des services de garde, le prochain pas du gouvernement libéral, ça va être quoi? Est-ce que le péage sur le prochain pont Champlain, on va devoir présenter notre rapport d'impôt, plus on est riche, plus on va payer cher? La co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, partage l'inquiétude de l'AQCPE. J'ai l'âge et l'expérience pour savoir ceci. Ce n'est que la première étape, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois dénonce une attaque frontale de la classe moyenne québécoise par le gouvernement libéral. Est-ce que le premier ministre est autant déconnecté de la réalité des familles québécoises? Elles sont étranglées actuellement. Elles ont de la misère à joindre les deux bouts, a déclaré le chef de l'opposition officielle Stéphane Bédard. Le gouvernement Couillard a déniché une autre façon libérale d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, a déploré la députée caquiste Lise Lavallée. Et je termine là-dessus en ajoutant peut-être que, et c'est ce qu'on oublie, les gens plus fortunés, oui, paient la même somme que les autres pour inscrire leurs enfants en centre de la petite enfance, mais ils paient beaucoup plus d'impôts proportionnellement vu les différents paliers d'imposition, ce qui fait qu'en bout de piste, ça leur revient actuellement plus cher. Alors, si on rajoute une deuxième couche en leur surfacturant au moment de la production de leur rapport d'impôt, l'utilisation des services de garde, c'est peut-être inéquitable.
Force. te prépare une belle assiette. Dans le fond, l'amour est une recette.
Aïeux qui chantait en famille. Eh bien, vous le savez peut-être pas, et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué dans la dernière année, mais le gouvernement fédéral a décidé que l'évaluation des grands projets énergétiques, ça se ferait plus par une audience publique en environnement, mais bien par l'Office national de l'énergie. Pour être sûr que l'Office national de l'énergie ferait ça rapidement, on lui donne un délai limite de 15 mois. Je vous en parle pourquoi? Parce que jadis, quand le téléphone, le prix des services téléphoniques était régi comme ça, Bell Canada, qui avait un quasi-monopole, déposait un rapport de 35 000 pages auprès des deux fonctionnaires qui devaient expliquer pourquoi ils n'étaient pas d'accord, s'ils n'étaient pas d'accord. Alors, généralement, ils étaient d'accord. Dans ce cas-ci, eh bien, c'est 30 000 pages qu'on a déposées.
Oui, et puis on fait encore mieux, François. L'Office national de l'énergie, quel beau nom entre nous. Hein, mm-hmm. Eh bien, il met une grande part de son énergie à s'aveugler. Et au nom du développement industriel, de l'emploi et de 1000 satisfactions économiques à venir, on connaît la litanie, eh bien, il a décidé, cet ONE, que l'environnement n'était pas une cause à défendre, et même pire, même pas à considérer. Ça a inspiré un article à Alexandre Schill dans Le Devoir qui s'appelle « L'ONE fera fi de l'impact du pétrole ». Alors c'est édifiant, hein, je vous le lis. L'Office national de l'énergie est formel. Pas question d'évaluer ou même d'aborder la question des changements climatiques et l'impact de l'exploitation des sables bitumineux dans le cadre de l'étude du projet Énergie Est de Trans-Canada. C'est terrible. Quand je lis cette phrase, j'ai l'impression de lire l'ancien code civil Napoléon. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein, vous voyez, c'est à peu près la même exactitude. Mm-hmm. Bref.
Bref, le principal argument contre la production de sable bitumineux n'est pas recevable. Alors, donnez-nous quelque chose d'autre si vous êtes contre.
Bon, alors, écoutez, on va voir ce qu'il y a. Les gaz à effet de serre, là, c'est des guillemets, et les changements climatiques ne feront pas partie de l'évaluation qu'on va faire, a répondu au Devoir un porte-parole de l'organisme fédéral qui contrôle désormais entièrement l'évaluation de ce qui est quand même le plus important projet de pipeline en Amérique du Nord. L'Office reconnaît que ce sont des questions qui sont importantes aux yeux des Canadiens. Mais le rôle de l'Office est de réglementer les... Alors, est-ce que je dois dire pipeline ou pipeline? Parce que...
Pipeline, ça devrait aller.
Ça va, bon. Méfie maintenant. Et bien souvent, les projets qui engendrent des gaz à effet de serre sont réglementés au niveau provincial, a-t-il fait valoir au lendemain du dépôt officiel du projet de Trans-Canada. Je ne sais pas si on voit bien la casuistique hein, dans le propos, mais c'est... Bon. En fait, le gouvernement fédéral n'impose actuellement aucune restriction quant aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la production pétrolière et gazière au Canada. Or, celle-ci est en pleine croissance. À titre d'exemple, la production pétrolière doit passer de 1,9 million de barils par jour à 4,8 millions de barils par jour d'ici 2030. L'essentiel de cette augmentation est dû au sable bitumineux albertain. Ouais, moi, je fais une aparté pour dire que c'est gentil tout ça, mais les 2 degrés en plus, ils arrivent. Les océans ont augmenté en moyenne de 19 cm, c'est absolument énorme. Et on va moins rigoler quand le Saint-Laurent va se mettre à déborder.
Oui, mais l'Alberta va avoir une chance de devenir enfin une plage.
Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, très bien. Bon, je cours m'acheter un parasol. Les données officielles publiées par le gouvernement Harper indiquent d'ailleurs clairement que le Canada ratera complètement les cibles de réduction de gaz à effet de serre, pourtant revues à la baisse par les conservateurs. Les émissions devraient plutôt grimper, alimentées par les pétrolières qui exploitent les sables bitumineux. À lui seul, le pipeline Energy Est, qui transportera chaque jour 1,1 million de barils de brut, permettra de mettre en marché une production d'énergie fossile qui générera plus de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, selon une étude publiée plus tôt cette année par l'Institut Pembina. Cela est supérieur à la totalité des émissions générées par les véhicules routiers au Québec. Rendez-vous compte. Porte-parole de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada, Patrick Bonin a déploré la décision de l'Office national de l'énergie d'exclure toute la question climatique de son évaluation. On ne peut pas prétendre mener une étude environnementale sur un projet aussi important sans aborder les conséquences pour le climat. Ça paraît quand même du bon sens, hein, de s'exprimer comme ça. Le président américain Barack Obama a lui-même soutenu l'an dernier que le projet de pipeline Keystone XL, moins important qu'Energy Est, ne serait pas approuvé s'il augmente de façon significative la production de gaz à effet de serre. L'effet de ce nouveau pipeline sur le climat devra absolument être pris en compte avant toute décision définitive. A-t-il alors dit. Je ne sais pas si la nouvelle Chambre républicaine lui permettra de
non,
de
parce
se tenir
que les républicains, on se prépare déjà à relancer le projet aux États-Unis.
Ouais. Pour Jean-Patrick Toussaint, de la Fondation David Suzuki, le Québec doit absolument demander au Bureau d'audience publique sur l'environnement d'étudier la question des impacts sur le climat du projet de TransCanada. Le Québec s'est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Or, ce pipeline signifie plus d'exploitation pétrolière, plus d'émissions, etc. Il ne faut pas aller dans la mauvaise direction et laisser tomber nos objectifs. L'ONE a néanmoins affirmé vendredi que le projet de TransCanada fera l'objet d'une étude rigoureuse. Chaque aspect du projet sera soumis à une évaluation robuste et scientifique, a soutenu son porte-parole. Le rôle de l'Office est de déterminer si le projet est dans l'intérêt public canadien. Il a ainsi expliqué que le design et l'ingénierie du tuyau seront pris en compte, mais aussi les impacts sociaux et environnementaux potentiels du projet. Je pense que tout est dans le mot potentiel. Quant au projet de terminal d'exploitation de pétrole, qui sera construit directement dans l'habitat critique du Beluga et du Saint-Laurent, on en a largement parlé ici, l'ONE entend mener une évaluation environnementale. Mais rien n'a été précisé à cet effet vendredi. Qu'en est-il des impacts majeurs potentiels pour cette population de cétacés menacés ? Ils feront partie de l'évaluation, a répondu l'ONE. Pas moins de 175 pétroliers pourraient accoster chaque année à Kakuna pour charger du brut albertin. Tout ça me paraît absolument effrayant. Et je suis atterré qu'on puisse s'exprimer avec une telle autorité dans la mauvaise foi.
On fait une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième partie de l'émission, on vous parle d'emploi au Canada, d'industrie high-tech, de santé, mais aussi de classe moyenne. Je commence immédiatement en vous rapportant les propos de Gérard Bérubé. Gérard Bérubé qui a signé un texte dans Le Devoir d'aujourd'hui intitulé « Bénévolat de longue durée ». Je le commenterai peut-être ensuite, mais vous allez voir, c'est assez choquant. La suggestion faite aux jeunes chômeurs de bonifier leur CV par du bénévolat témoigne d'une réalité qui déborde du cadre européen. Stéphane Poloz ne l'évoque pas explicitement, mais le Canada pourrait aussi abriter une génération perdue. Après le chômage, le bénévolat de longue durée? Lundi puis mardi, Stéphane Poloz a commenté la situation particulière du chômage chez les jeunes sous l'angle du bon père de famille, de riche, qui peut détonner venant d'un gouverneur d'une banque centrale. Devant le comité permanent des finances de la Chambre des communes, il en a remis en proposant aux jeunes sans travail de s'adonner au bénévolat afin de bonifier leur CV dans l'attente de jours meilleurs. On peut toutefois comprendre le message appelant à éviter une perte de qualification derrière la maladresse du propos. On peut aussi y voir une banalisation non voulue d'une réalité économique et sociale que l'on croyait confinée à l'Europe. On ne peut que le déplorer. La zone euro croule sous le poids d'une dette publique toujours grandissante et doit conjuguer avec un chômage de masse, touchant les 11,5%. Un chômage qui oscille entre 24% chez les moins de 25 ans, avec des pointes dépassant les 53% en Espagne, les 50% en Grèce et les 42% en Italie. Au Canada, le taux de chômage général atteint 6,8%, mais 13,5% chez les 15-24 ans. Voilà donc un autre déficit qu'il faudra également éponger, celui généré par la persistance d'un chômage structurel généralisé et par un cercle vicieux de pauvreté intergénérationnelle, de perte de qualification, voire d'exclusion sociale auquel s'expose cette génération perdue. Il faut s'y résigner. Le Canada abrite aussi sa génération perdue, selon un décryptage superficiel des propos de M. Poloz. Dans sa présentation lundi à la conférence annuelle du Conseil canadien des sociétés publiques privées, il chiffrait à 200 000 le nombre de jeunes Canadiens n'ayant pas d'emploi, occupant un emploi pour lequel ils étaient surqualifiés ou ayant préféré retourner à l'école. Le lendemain, le gouverneur a fait ressortir que l'économie canadienne présente une offre excédentaire considérable, et ce, 5 ans après la fin de la Grande Récession, et qu'il faudra attendre encore probablement 2 ans avant que le marché du travail reflète pleinement la reprise économique. À tout ce beau monde éprouvant de la difficulté à dénicher un emploi, M. Poloz a donc conseillé de faire du bénévolat pour travailler à quelque chose qui est relié à votre champ d'expertise pour acquérir de l'expérience durant cette période. La veille, il leur disait ceci: « Si vos parents vous laissent vivre dans leur sous-sol, vous devriez sortir et travailler gratuitement pour garnir votre CV », selon les propos repris par la presse canadienne. Il reconnaissait toutefois au passage que la formule de stage non rémunéré pouvait ne pas convenir aux jeunes moins favorisés. M. Poloz craint que la situation précaire des jeunes par rapport à l'emploi persiste avec cette production nationale tardant à atteindre son plein potentiel, avec aussi ces entreprises recherchant d'abord les gains de productivité dans l'attente de signaux appelant à une expansion économique assise sur des bases plus solides. Il faut également retenir que ce long cycle de croissance anémique ne fait que perpétuer une dégradation des conditions d'emploi chez les jeunes, une précarité devenue structurelle. Revenons aux conclusions d'une étude récente réalisée par des analystes de Statistique Canada. On peut observer que la proportion des jeunes occupant un emploi à temps plein est à la baisse depuis 1976 et que ces derniers avaient un salaire réel moins élevé en 2012 qu'en 1981. Le salaire horaire médian a chuté de 20 % en termes réels de 81 à 98 pour ne se reprendre que partiellement depuis l'an 2000. Aussi, on note que le temps partiel involontaire a connu une hausse significative chez les plus jeunes entre 2007 et 2012, tout en restant cependant sous ses niveaux de 1997. En 2013, la moitié des employés âgés de 15 à 19 ans touchaient le salaire minimum. Chez les 20-24 ans, cette proportion était de 13 % de 20 % dans le cas des employés n'ayant pas terminé leurs études secondaires. Cette réalité salariale est à mettre dans la perspective qu'environ la moitié des étudiants du baccalauréat doivent s'endetter pour obtenir leur diplôme. Il est vrai, diront certains, qu'un peu moins de la moitié des étudiants récemment diplômés ont choisi un champ d'études où il y a peu d'offres d'emploi ou composant les secteurs moins lucratifs. M. Poloz s'est abstenu d'aller aussi loin. Alors, on le voit, on peut se poser des questions sur l'avenir de la jeunesse qu'on est en train de former sur nos bancs d'école et se demander sérieusement, est-ce que ça ne va pas ultimement, bon, si les jeunes commencent à travailler gratuitement pour avoir des stages, est-ce que ça ne va pas justement diminuer le nombre d'emplois? Pourquoi j'embaucherais quelqu'un si je peux avoir un stagiaire gratuit?
C'est extrêmement dangereux et je me demande si la prochaine étape, c'est pas s'il faudra payer pour avoir un emploi aussi.
Ah, c'est déjà apparu dans le monde de l'aviation, ça. Il n'y a pas si longtemps sur les ondes de cette émission, on vous parlait de Google qui se préparait à vous mettre des nanoparticules dans le corps pour aller détecter vos maladies, vos cellules cancéreuses et faire rapport à votre iPhone ou à votre montre ou à vos lunettes ou à que sais-je encore. Est-ce que l'avenir de la santé passe par les gadgets?
J'ai l'impression. Et si vous cherchez une idée de cadeau pour le prochain Noël, soyez-en sûr. Un bracelet connecté va se situer au sommet des engouements qu'ont connus les années passées les tablettes ou les téléphones. Et les enjeux, effectivement, à cause de la santé, sont encore plus importants pour les fabricants et les opérateurs. Ça a inspiré un article à Audrey Fournier dans Le Monde du 2 novembre, que je vous lis, qui s'appelle « L'industrie high-tech mise sur la santé connectée ». Allô docteur, les smartphones et autres dispositifs mobiles, tour à tour compagnons, confidents ou conseillers, seront-ils bientôt les premiers à nous prévenir de nos excès, de nos erreurs ou à poser un diagnostic sur notre santé. Les annonces liées à la santé connectée se sont bousculées cette semaine. Microsoft, que l'on n'attendait pas sur ce terrain-là, a dévoilé jeudi 30 octobre son Microsoft Band, un bracelet qui permet de surveiller sa forme. La volonté de Microsoft de se lancer sur le créneau a de quoi étonner quand on sait que l'entreprise s'est beaucoup recentrée sur les services et les logiciels au détriment de ce qu'on appelle le hardware. Mais cela montre que le géant de Seattle n'entend pas rester à l'écart du mouvement. L'appareil, qui se porte au poignet, est doté de capteurs enregistrant le rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées et la qualité du sommeil, explique Microsoft, le tout pour $199. Pour stocker les données connectées sur le cloud computing, vous savez ce que c'est l'informatique dématérialisée, Microsoft a présenté une application liée qui s'appelle évidemment Microsoft Health, Microsoft Santé, qui sera également utilisable sur iPhone, Android et naturellement sur Windows Phone. Google a aussi lancé cette semaine sa plateforme consacrée à la santé sur Android, elle s'appelle Google Fit. Comme une réponse au Health Kit, un ensemble d'applications inclus par Apple dans son dernier iPhone, Google, j'espère que vous y retrouvez. Hein, bon. Google Fit peut fonctionner avec un bracelet connecté, mais aussi de façon indépendante si son propriétaire introduit manuellement ses données. Les fonctions offertes sont assez comparables aux autres applications du même acabit, comptage des calories, mesure de l'activité physique, surveillance du sommeil, avec à la clé une collecte et une analyse des données censées donner une restitution de notre santé et nous aider à prendre des décisions en conséquence. Vous verrez que de même qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir quelqu'un dans la rue complètement scotché à son iPhone, comme si on lui enlève, on a l'impression qu'il va mourir. Je pense que dans peu de temps, on ne pourra pas s'endormir sans avoir ce petit joujou autour du poignet et qu'on aura une insomnie si jamais il est en panne. Mais bon, on en reparlera. Les données de santé pourraient se monnayer très cher. Ah, voilà ce qui explique les choses. La santé connectée attire tous les fabricants d'électronique, car les données de santé pourraient à l'avenir se monnayer très cher. Les compagnies d'assurance ou les banques devraient s'y intéresser, notamment pour moduler le prix de leurs contrats ou les taux de leur crédit en fonction de l'état de santé de l'assuré. Tac, vous faites un cauchemar, votre crédit tombe. Mm-hmm. Hein, c'est à peu près ça. À l'heure où l'assurance maladie bascule de... Non, votre crédit tombe, vous faites un cauchemar, excusez-moi. À l'heure où l'assurance maladie bascule de plus en plus vers le secteur privé, l'enjeu est de taille, au point de séduire bien au-delà des constructeurs de smartphones. Nintendo, ancienne star du jeu vidéo, à la recherche d'un relais de croissance face à une part de marché en fort recul, a annoncé jeudi s'être associé avec le laboratoire pharmaceutique américain ResMed. C'est intéressant ça, parce que d'accord, les jeux vidéo sont en recul, ça commence à saturer, etc. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ? De faire de notre propre vie un jeu vidéo et de notre propre identité un personnage de jeu vidéo. C'est marrant, ça ne m'attire pas du tout.
Bon, c'est encore pire.
Hein, je ne veux pas être dans la modernité, peut-être. Bon. Alors, Nintendo avait déjà fait une incursion dans le domaine de la santé connectée il y a quelques années avec la mise sur le marché du Wii Fit, une planche d'exercice physique associée à la console Wii. D'ailleurs, c'était pas mal. Moi, je l'ai utilisé au moins 2 jours. Les ventes de bracelets intelligents devraient exploser. Le filant, alors on appelle ça les wearables, consacrés à la santé ou simplement au suivi de nos activités quotidiennes et moins récent qu'on ne le pense. LG ou Sony ont déjà lancé des produits de ce type, 2009 et 2012. Sans rencontrer, le succès est escompté. Le premier produit abouti reste la montre connectée Galaxy Gear de Samsung, qui malgré sa technicité se vend mal. Le marché des bracelets et montres connectées ne pèse pas encore très lourd dans les ventes, malgré le nombre d'objets disponibles et les innovations proposées. Cette activité est d'ailleurs en train de se recomposer autour des grands acteurs de l'électronique, les moins spécialistes ayant jeté l'éponge. Nike a ainsi délaissé la production de Fuel Band. Vous savez d'où ça vient ce nom Nike ?
La déesse de la victoire,
ouais,
en fait.
Ouais. C'est Nike, en fait. Nike, je voudrais dire Nike, mais bon, on hésite un peu. Son bracelet connecté, lancé en 2012, est confié la technologie à Apple. L'attention portée au design et à l'expérience utilisateur sont les deux leviers qui devraient permettre au marché de s'envoler, indique une étude du cabinet Gartner. Selon les chiffres compilés dans ce rapport, les montres intelligentes représenteront 40% des dispositifs portés au poignet d'ici à 2016. Il y avait le téléphone intelligent maintenant, il y a la montre intelligente. Et vous ne voulez pas une intelligence comme ça, sans rien, pour la porter, ça serait bien aussi.
Ça sera plus nécessaire.
Ah, c'est vrai, excusez-moi. Alors, en 2015, 500 000 000 000 d'êtres humains surveilleront leur santé par le biais d'une application ou d'un dispositif connecté. Cependant, préviennent les analystes, certains obstacles devront être levés. En premier lieu, la durée de vie des batteries de ces wearables pose encore problème. La réticence d'Apple à évoquer ce sujet lors de la présentation de sa montre e-watch est un parfait exemple. Là où un smartphone dure une journée, un bracelet connecté, s'il doit mesurer des paramètres liés à la santé, devrait être autonome pendant plusieurs jours. Enfin, la confidentialité et la sécurité des données collectées par ces objets ne sont pas le moindre des casse-têtes à régler avant leur adoption massive. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a d'ores et déjà émis des recommandations sur le quantified self, on pourrait traduire la mesure de soi. Le fait que les données collectées passent par un serveur d'entreprise avant d'être restituées à l'utilisateur pose selon elle problème. Alors effectivement, moi j'avais noté ça, je voulais m'acheter un de ces joujoux, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, et j'avais vu que Sony, qui vous envoie un, j'ai oublié le nom, envoie les données qu'il collecte pendant votre sommeil à tout un tas de services, de machins de, qui vendent d'autres choses. Et le lendemain matin, vous recevez des emails pour vous vendre des choses qui sont liées à la façon dont vous avez dormi. C'est effrayant.
Non, épouvantable et assez angoissant. Puis je fais un parallèle facile avec les programmes d'assurance automobile qu'on voit actuellement où on vous demande si vous êtes un bon conducteur, on va vous charger moins cher. Alors, on met quelque chose qui espionne votre conduite pour voir la quantité d'erreurs que vous faites finalement. Oui. En bout de piste, on découvre qu'on n'est pas un aussi bon conducteur que ça et on reçoit une augmentation de primes d'assurance. Ça pourrait devenir ce genre de calcul-là si les données servaient à gauche et à droite en matière de santé. Votre patron saurait que vous auriez bu un verre le samedi soir.
C'est exactement ça.
Il y a des choses là-dedans qui font peur.
J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'Esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette durant les moments creux dans certaines gazettes. Systématiquement, les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de chou. Or, lassé de servir de tête de massacre, des comptes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Toute la vérité, messieurs, je vous la lis, ivre, si j'ai quitté les rangs des plus de 200 livres, c'est la faute à Mimi, à Lisette, à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté le rut, le rut, le rut, le rut. Qu'on me comprenne bien, j'ai l'âme du satyre et son comportement, mais ça ne veut point dire que j'en ai le talent. Le génie, loin s'en faut, pas une seule encore ne m'a crié bravo. Entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste, rose un bon nombre de femmes, de journalistes, qui me pensant fichu, mettent toute leur foi à me donner du bonheur une dernière fois. C'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est magnifique, et dans les positions les plus pornographiques, je leur rends les honneurs à fesses rabattues sur des tas de bouillons, des paquets d'invendus. Et voilà ce qui fait que quand vos légitimes me montrent leurs fesses au peuple ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimés à l'envers, les échos, les petits potins, les faits divers. Et si vous entendez sourdre à travers les plaintes du boudoir de ces dames, des râles et des plaintes, ne dites pas c'est tonton Georges qui expire, ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de rechef. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq, et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredaines, la barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, 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 trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté le rut, le rut, le rut, le rut.
Brassens, le bulletin de santé, une autre de ses chansons irrévérencieuses. Parlant de thèmes irrévérencieux, je vais vous parler de classe moyenne parce qu'on a souvent l'impression que la classe moyenne se porte mal. Un concept en commençant, un concept tout bête, comment évalue-t-on la classe moyenne? C'est quoi la classe moyenne? La définition sur laquelle on s'entend généralement, c'est quelqu'un qui gagne entre la moitié et le double du salaire médian. Et attention, le salaire médian, c'est pas le salaire moyen. Le salaire médian, c'est le salaire de la personne qui, finalement, dans une communauté, a autant de gens au-dessus de lui que de gens en dessous de lui. Donc, il peut y avoir une différence entre le salaire médian et le salaire moyen. Je vous explique tout ça pour vous aider à la compréhension du texte intitulé « Au Québec, la classe moyenne se porte bien ». Il s'agit d'un texte d'Éric Desrosiers, publié dans le Devoir du 4 novembre. La classe moyenne ne s'érode pas au Québec, en dépit d'une perception répandue et grâce notamment aux impôts et transferts de l'État-providence, constate une étude de l'Université de Sherbrooke. Un peu moins de la moitié des ménages québécois gagnaient entre 75 et 150 % du revenu médian en 1976. Pardon, 75 et 150, c'est pas la moitié et le double, c'est les trois quarts et 150 % je m'excuse, ma définition tout à l'heure était erronée, je reprends. Un salaire, la classe moyenne, c'est entre 75 et 150 % du revenu médian. Voilà. Correspondant à la définition de la classe moyenne la plus couramment utilisée par les experts. Cette proportion n'avait pratiquement pas changé et était même légèrement supérieure, 46 % presque 35 ans plus tard, en 2010, constate une étude d'une trentaine de pages dévoilée lundi par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Le portrait serait toutefois différent si l'on n'est pas compte de l'effet redistributif de la fiscalité et des transferts sociaux des gouvernements, y notent les chercheurs François Delorme, Suzy Saint-Cerny et Luc Godbout. Si on s'était arrêté au seul revenu de marché, la proportion de ménages appartenant à la classe moyenne au Québec serait passée de 36,8 en 76 à seulement 29,4 % en 2010, sans dire long sur le rôle joué par l'État. Cela déboulonne le mythe du déclin de la classe moyenne au moment même où de plus en plus de politiciens au Canada se veulent les champions d'une classe moyenne en péril, a observé en entretien téléphonique au Devoir l'économiste François Delorme, qui rappelle l'importance centrale qu'a toujours prise cette classe dans les économies développées. Un mythe qui s'explique peut-être en partie par le fait que l'on a véritablement assisté à un effritement de la classe moyenne dans d'autres pays, comme les États-Unis ou la France, ou peut-être encore par le fait que les ménages québécois se savent aujourd'hui plus endettés qu'ils ne l'étaient à la fin des années 70. Si la proportion générale de la classe moyenne au Québec reste inchangée, il en est tout autrement de la nature de ceux qui la composent. La moitié d'entre eux étaient des familles avec deux parents il y a 35 ans. Elles ne comptent plus que pour le quart aujourd'hui. La part de personnes seules étant passée de 21 à 28 %, celle des couples sans enfants de 24 à 29 %, alors que les familles monoparentales sont passées de seulement 6 % du total à trois fois plus. Le gouvernement, qui voudrait aujourd'hui venir en aide à la classe moyenne, verra sa tâche drôlement compliquée, observe François Delorme. Les besoins et la réalité de cette population se sont considérablement diversifiés. Auparavant, une ou deux grandes mesures pouvaient faire l'affaire. Il en faudra dorénavant cinq ou six. Plutôt que la classe moyenne, nous devrions parler des classes moyennes. Le recul du poids relatif des ménages comptant deux parents au sein de la classe moyenne ne doit pas trop les alarmer, note l'étude. Il découle surtout d'une augmentation de la représentation des autres types de ménages, les personnes seules, les familles monoparentales, etc., ainsi que du passage d'une partie d'entre eux, du groupe des ménages à faible revenu à celui de la classe moyenne, et de plusieurs d'entre eux de la classe moyenne au groupe des ménages à revenu élevé. Environ 15 % des familles de la classe moyenne, biparentales, avaient un revenu inférieur à 75 % du revenu médian après impôts et transferts en 2010, soit 47 150 $ pour deux enfants, alors que cette proportion était de 25 % en 76. Le changement a été encore plus marqué au sommet de l'échelle. 32 % des familles biparentales gagnant plus de 150 % du revenu médian en 2010, soit 94 304 $ si vous avez deux enfants. Deux fois plus que 35 ans auparavant. Ce jeu de vases communicants a logiquement réduit la proportion des familles biparentales appartenant à la classe moyenne, qui passe d'environ 59 à 53 %. Le revenu médian après impôts et transferts des ménages québécois a donc augmenté au cours des 35 dernières années, même lorsqu'on prend en compte l'effet de l'inflation. le revenu réel des ménages a cru en moyenne de 35 % 0,9 par an, à raison de 53 % chez les personnes seules, 30 % chez les couples sans enfants et 64 % chez les familles biparentales et finalement 85 % dans les familles monoparentales. On l'a dit, cette amélioration est en partie attribuable aux programmes gouvernementaux, notamment familiaux, et de lutte contre la pauvreté, mais aussi, dans certains cas, aux baisses d'impôts, disent les chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Elle est surtout le fait de l'entrée massive sur le marché du travail des femmes, qui a entre autres apporté un deuxième revenu au ménage où se trouvent des couples. À cela, on doit aussi ajouter l'augmentation marquée du niveau d'éducation de l'ensemble de la population, mais encore une fois, principalement des femmes, dit François Delorme. On passe de plus en plus de ménages qui n'avaient qu'un seul revenu à des ménages qui en comptent deux, et dont le plus important est celui de la femme. C'est un gros changement. Le Québec se démarque peu du Canada dans le domaine. La classe moyenne de l'un regroupant 47 % des ménages et celle de l'autre 43 %. C'est un peu normal parce que nous avons en commun plusieurs programmes gouvernementaux, observe François Delorme. Le Québec fait parfois un peu mieux parce que ses politiques sociales sont plus généreuses, mais aussi parce que les revenus des ménages y sont moins élevés que dans le reste du pays et que cela permet à ces familles de profiter un peu plus de certains programmes sociaux que dans d'autres provinces canadiennes. Donc, en gros, une assez bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a encore une classe moyenne au Québec et elle est plus diversifiée. C'est fini le temps où elle était essentiellement composée de la petite famille, un homme, une femme, deux enfants.
Oui, on espère que le modèle social québécois a encore de belles années devant lui. Quelques brèves pour terminer. Alors, on a dit du mal tout à l'heure de l'Office de l'énergie. Je voudrais peut-être un tout petit peu contrebalancer avec une déclaration de Michael Bignon, qui est le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec. Ben, savez-vous quel est pour lui le grand défi de demain pour les sociétés pétrolières? Eh bien, c'est l'acceptabilité sociale. Donc, on espère qu'il pourra rencontrer les dirigeants de l'ONE et leur expliquer que ça passe peut-être aussi par la défense de l'environnement.
Oh, on veut être aimé. C'est pas beau. Il y a un truc assez étonnant qui s'est passé, et ça donne une brève aussi. Tim Cook, la semaine dernière, a publiquement fait état de son homosexualité. Bon, évidemment, les coming out, ça n'a plus rien de nouveau, mais dans le milieu des affaires, qu'un dirigeant d'une grande entreprise, surtout une des plus grosses au monde, fasse ce genre de sortie-là, c'est remarquable. C'est à peu près la première fois que ça arrive et c'est une bonne chose. Ceci dit, il y a un député russe qui, lui, veut l'interdire de séjour en Russie puisqu'il fait la promotion d'une pratique dépravée.
Tiens, à propos de pratique dépravée, savez-vous que des Montréalais veulent légaliser l'usage de la planche à roulettes dans les rues et sur les trottoirs? Hein, actuellement, on risque une amende de 60 $.
Eh bien, un petit groupe de presse. On risque sa vie, en fait.
On risque sa vie, exactement. Donc, elle vaut peut-être plus que 60 $. Alors, je ne sais pas si on réussira, si le groupe de pression qui essaye de travailler auprès de la mairie réussira à imposer cette nouvelle décision.
J'espère que non. J'espère qu'on va abolir à tout jamais les nids de poules si on le fait. Jean-Philippe Desquerry, j'aurais pu vous en parler longuement de ça, s'est penché sur le plan Nord à l'occasion de la visite en Chine de Philippe Couillard, puisque Philippe Couillard n'aurait pas une occasion de mettre de l'avant sa version édulcorée du plan Nord. Je vous rappelle qu'il reste plus grand-chose de ce qui était à l'origine. Et il en conclut, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans l'avenir, que le gouvernement cherche actuellement à justifier les dépenses d'infrastructures qui vont précéder les supposés investissements miniers attendus, alors qu'il va se permettre de comprimé partout ailleurs dans ses dépenses. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir éventuellement évaluer.
On parle beaucoup des drones en ce moment. Vous savez qu'on aura peut-être des drones ambulances dans le ciel. Hein. Ça a été présenté par un étudiant belge qui s'appelle Alec Momont à l'Université de Delft aux Pays-Bas. Ben, l'idée, c'est un drone qui secourt les personnes atteintes d'arrêt cardiaque dans les lieux publics. Hein, ça concerne quand même 800 000 personnes dans l'Union européenne par an. Et il n'y en a que 8% qui survivent. Alors peut-être qu'un drone pourrait en sauver beaucoup. Ça sera en tout cas plus intéressant que de survoler les centrales nucléaires.
Syndicalisation là où on ne l'attendait pas du tout. Les stagiaires postdoctoraux, ce qu'on appelle des postdocs à l'université, sont des gens archi-formés qui ne sont pas encore professeurs d'université et qui ne sont plus étudiants et dont le plus souvent la rémunération dépend de fonds de recherche qui les emploient à telle ou telle recherche. Donc, eh bien, ils n'ont aucune sécurité d'emploi, aucun bénéfice social. Ils ont en moyenne 34 ans, 69 % sont mariés et 79 % de ces gens-là hyper qualifiés gagnent 45 000 $. $1 ou moins par année. Il faut savoir aussi que moins du quart va finalement obtenir un vrai poste de professeur à l'université puisqu'il n'y a pas assez de demandes pour les justifier. Alors, bonne chance dans votre syndicalisation.
Oui, enfin, comme quoi il y a de quoi encore améliorer le modèle social québécois par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Savez-vous qu'un verre d'alcool égale un burger? Hein, c'est terrible, ça. C'est une association britannique de santé publique qui a...
J'arrête de manger demain.
Oh, bah oui, attendez, c'est un rapport édifiant. Donc, réfléchissez à deux fois hein, avant de commander du vin avec votre dîner. Parce qu'un verre de vin blanc, c'est 180 calories. C'est ce qu'il y a dans un donut, par exemple.
Je mets ça, puisqu'on parle d'alcool, avec une dernière brève pour vous dire que le meilleur whisky du monde est la Terre a tremblé est japonais. Et oui, le meilleur single malt au monde est actuellement un japonais, le Yamazaki Single Malt. L'Écosse aurait donc des choses à apprendre. Enfin, on reviendra peut-être là-dessus la semaine prochaine, puisque vous l'entendez, l'indicatif signale que c'est déjà pour nous le moment de vous quitter. Alors, on remercie Kamal Salifou à la mise en onde. On vous invite à rester à l'écoute pour la revue de presse de Clotilde Desailles. Éric, merci. Ah, Étienne Campagnard, pardon, puisque Clotilde... Christiane Campagnard, oui, puisque Clotilde n'est pas là aujourd'hui. Éric, merci.
Merci, François. À la semaine prochaine.